Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Benjamin Vignal. Aujourd'hui, nous recevons Jacqueline Kellen pour parler du sens spirituel des contes de fées.
Attrape une étoile filante, fais qu'une mandragore enfante. Dis-moi où sont les ans passés, qui du diable a fendu le pied. Apprends-moi à ouïr les sirènes, à parer les traits de la haine. Si tu es né pour l'impossible, pour voir des choses invisibles, cours si loin que sur toi le temps fasse neiger des cheveux blancs. Tu me diras à ton retour, les merveilles rencontrées.
Jacqueline Kellen, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Ce petit extrait d'un poème de John Donne est en exergue de votre nouveau livre, Jacqueline Kellen, ce livre au titre « On ne peut plus évocateur », une robe de la couleur du temps, le sens spirituel des contes de fées. En fait, c'est toujours une joie de vous recevoir, quelle que soit la couleur de la robe que vous portez, ici aux Racines du Ciel, puisque depuis de longues années, votre travail témoigne de la nécessité de remonter de nos racines vers le ciel, dont vous explorez justement les couleurs, livre après livre, année après année. Ce ciel qui est pour vous à la fois l'origine, la destination et l'ici de l'âme humaine. En fait, votre biographie nous dit que vous êtes une spécialiste des mythes de la tradition occidentale et de la démarche mystique. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être spécialiste de ça. En tout cas, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets, ouvrages pour certains desquels, d'ailleurs, nous vous avons reçus déjà aux Racines du Ciel. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que tout ce que vous écrivez indique que ces choses ne sauraient être une spécialité. Et que si spécialité il y a, elle est dans le regard. C'est ça qui vous caractérise le plus. Vous portez sur le monde et les choses un regard intérieur et acéré. Et quand vous écrivez, c'est pour nous aider à lever le voile qui recouvre l'invisible. Et c'est ce que vous faites dans cet ouvrage que je viens de citer, Une robe de la couleur du temps, la spiritualité des contes de fées, publié chez Albin Michel.
Alors Jacqueline, si vous écrivez un livre sur les contes, j'imagine que vous avez été nourrie enfant de contes. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre conte qui vous a beaucoup marqué enfant ?
Oui, très tôt j'ai lu et très tôt mes parents ne me racontaient pas des histoires mais m'offraient des livres, beaucoup de livres. Et toute petite, je sais que j'ai lu parmi les premières histoires, c'était les contes de Grimm, donc à coup sûr les plus mystérieux et les plus initiatiques, c'est bien sûr l'adulte qui parle. J'étais à la fois très impressionnée, émerveillée, parce que je sentais bien à la fois que c'était... ça résonnait en moi, c'était un monde très profond, très lointain, peut-être enfoui, et en même temps très présent. Et non seulement j'étais déjà émerveillée, mais j'avais envie en effet de chercher plus loin, de chercher derrière. Alors Lélie a tout à fait raison, je ne suis spécialiste de rien du tout, nous sommes dans une société d'experts, mais je suis passionnée. Et en effet, mon goût, ma passion est de creuser, comme les petits nains de Blanche-Neige vont chercher dans la montagne des parcelles d'or, donc de creuser, d'aller chercher en effet derrière la surface des choses. Et on sait bien que dans toute la littérature ou dans les traditions spirituelles, les récits sont à la fois des histoires pour attirer l'attention ou mobiliser notre attention et en même temps qu'ils recèlent une sagesse, qu'ils colportent plus ou moins de façon clandestine. Et c'est ça qui m'a intéressée, de me dire finalement ces contes que l'on donne aux enfants pour, soi-disant, les bercer, les préparer à une douce nuit. De fait, moi, je suis sûre qu'ils sont là, au contraire, pour nous réveiller, pour réveiller l'âme, et aussi pour nous révéler ce qu'on appelle la sagesse éternelle, hein, la philosophia perennis dont parlait, entre autres, Aldous Huxley. Cette sagesse qui n'a jamais fait défaut, mais qui est recouverte, et surtout de nos jours où j'ai l'impression que le monde invisible, surnaturel, avec ses dangers et ses mystères, est repoussé, oublié ou nié.
Alors avant qu'on emmène plus longuement avec les livres sur la dimension de sagesse des contes de fées, je voudrais encore vous questionner un petit peu sur vous. Un ami psychanalyste m'a dit, généralement les enfants chérissent particulièrement, sont particulièrement émus par un conte plutôt que 50, et ce conte très souvent fait écho à leurs problématiques psychologiques profondes, à leurs angoisses, à leurs peurs, à leurs s'ils ont, je sais pas, ils étaient abandonnés, ça va être un conte d'abandon, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà sur le point de vue psychologique, avant qu'on parle de la sagesse et de la spiritualité? Est-ce que vous avez un conte qui vous a marqué particulièrement enfant?
Alors je vais répondre aux deux questions. La première, c'est en effet, il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation dans tous les grands textes littéraires ou traditionnels. Et bien sûr, celui qui a été privilégié depuis, entre autres, les années 70 avec Bettelheim, mais bien avant avec, bien sûr, la pensée freudienne, c'est l'aspect uniquement psychologique et psychanalytique. Les contes répondent à des problématiques, en effet, de notre vie psychologique et à des conflits familiaux, à des problèmes sexuels, etc. Donc, c'est-à-dire la vie quotidienne de notre condition mortelle. Et il me semblait, moi, qu'il y avait non pas un plafond, mais qu'il y avait autre chose, en effet, tout ce monde spirituel que les contes réveillaient. Alors, l'autre réponse, donc vous allez faire la psychanalyse hâtive, rapide, justement qui m'a marqué, que je n'ai pas abordé dans ce livre, est un conte de Grimm extraordinaire qui s'appelle « Le fidèle Jean ». Et le fidèle Jean et l'histoire, j'essaie de résumer très 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 vite, c'est l'histoire d'un serviteur qui est absolument dévoué à son maître, qui est un prince, et qui agit de façon absolument incompréhensible par rapport à la raison raisonnante, qui veut des explications, qui est prudente, etc. Et si bien que, alors qu'il permet au prince d'épouser la belle princesse, eh bien, il est mis à mort parce qu'on croit qu'il veut tuer la princesse. Enfin, ça a l'air très compliqué, mais de fait, c'est une fidélité jusqu'à la mort, une fidélité à toute épreuve. Et même si le prince est heureux en mariage, il est toujours affligé de savoir que son grand serviteur, qui est quasiment un ami, Jean, qui est transformé en pierre, eh bien, ne sera plus jamais près de lui et ne sera jamais son compagnon de vie. Et un jour, il apprend, enfin, tant que je me souvienne, il apprend que pour redonner vie à cette statue, eh bien, il faut qu'il sacrifie ses deux enfants, ses deux petits-enfants qui sont nés depuis. Et là, c'est le dilemme de, que suis-je prêt à donner, à sacrifier pour la vie, la vraie vie, si on peut dire. Et il le fait. Et c'est alors que, bien sûr, la statue s'anime et le fidèle Jean revient. Au fond, la vraie vie n'est jamais partie. Mais bien sûr, les enfants sont également ressuscité ou régénéré, si on peut dire. Et de fait, alors, avec du recul, encore une fois, des années, moi, je n'ai pas fait ma psychanalyse et je ne suis pas passée par là, mais pour moi, le fidèle Jean est absolument un personnage christique qui donne sa vie pour celui qu'il aime, à savoir le prince. Et lui ne cherche pas, et c'est aussi celui qui assiste aux noces du prince sans lui-même chercher pour lui. Donc je ne sais pas du tout si on peut trouver des complexes, des névroses ou des abandons. Pour l'instant, je n'ai pas été encore transformée en pierre. mais je trouve que c'est un conte initiatique extraordinaire sur un amour total et irréversible.
Lily ?
Oui, et il nous permet, en quelque sorte, d'entrer dans le vif du sujet. Je n'avais pas prévu qu'on en parle si tôt, mais enfin, puisque vous parlez de la question de la mort et de sacrifice, etc. C'est vrai que dans les contes que vous racontez, un grand nombre, pas tous, hein, mais quand même un grand nombre, évidemment, tournent autour de la mort.
Ces contes de fées, qu'il s'agisse de Grimm, Andersen, Perrault, tout le premier, le français du XVIIe siècle, ces contes, pour moi, sont vraiment les héritiers d'une sagesse qui remonte vraiment aux traditions pythagoriciennes, néoplatoniciennes, on va dire la tradition païenne. Il n'est pas du tout fait référence au christianisme. Il n'est pas question de Dieu le Père, il n'est pas question de Jésus, de Marie, etc. Pas du tout, ni des saints, ni des anges. Donc c'est un monde païen, ça ne veut pas dire que c'est antichrétien, mais pour moi c'est vraiment le fil qui était transmis, entre autres, par les religions à mystère, qui avaient pour sujet principal les chemins de l'au-delà. Comment ne pas mourir tout à fait? Comment ne pas périr lorsque le corps va disparaître? Et comment s'assurer en effet cette survie bienheureuse. Et vous parliez de la mort parce qu'on l'oublie, mais c'est notre condition. Et sans parler des grandes traditions spirituelles, mais on sait que, entre autres, le poète latin Lucain dit au détour d'une phrase « La mort est le milieu d'une longue vie ». Bon. Alors, nous, aujourd'hui, modernes ou post-modernes, je ne sais pas, ou post-post-post quelque chose, nous nous intéressons uniquement à une moitié. Et puis, le trépas arrive et ensevelit tout. Les contes, comme les mythes, les récits initiatiques, nous rappellent qu'il y a un monde immense, invisible, qu'il s'agit d'explorer et peut-être dans lequel l'âme va naviguer. Ils parlent pour moi des voyages de l'âme, des pérégrinations de l'âme, comme en effet en parlaient Pythagore et Plotin.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, la torre, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, la torre, la do.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Je rappelle que nous sommes ce matin en compagnie de Jacqueline Kellen et nous parlons des contes de fées à l'occasion de son ouvrage Une robe de la couleur du temps, le sens spirituel des contes de fées chez Albin Michel. Alors Lily Anvar, est peut-être venu le moment de lire un conte.
Oui, alors on va peut-être pas le lire en entier parce que ce serait trop long.
Ou
mais
de raconter.
Je voudrais, on va raconter un des premiers contes que vous racontez, que visiblement vous aimez beaucoup. Et que moi, j'aimais énormément quand j'étais enfant, et sauf que je ne le disais pas, parce que comme c'est un conte triste, je me disais, si je dis que j'aime ce conte, on va trouver que je suis... on va me psychanalyser. C'est l'histoire, donc, de la petite marchande d'allumettes, la petite fille aux allumettes. Alors, je crois que nos auditeurs connaissent plus ou moins le conte, mais enfin, pour poser le tableau, la petite fille aux allumettes est une pauvre fille qui vend des allumettes parce qu'elle y est obligée par ses parents et qu'elle vit évidemment dans la plus grande misère avec des parents odieux. Et un soir de Nouvel An, c'est étrange, on s'attendait que ce soit un soir de Noël, mais enfin, bon, c'est un soir de Nouvel An. Elle est là, dans la rue, dans la neige, à essayer de vendre ses allumettes, mais elle n'y parvient pas. Il fait de plus en plus froid. Les gens la méprisent, ne la voient même pas. Ils sont pressés qu'ils sont de rentrer chez eux pour s'adonner aux fêtes de cette nouvelle année, aux fêtes nocturnes donc, de cette nouvelle année, à manger de bonnes oies bien grasses autour d'arbres de Noël et de cheminées bien chaudes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans une rue déserte. Et là, elle a l'idée, puisqu'elle ne tient plus de froid, de tirer du paquet une allumette qu'elle craque pour réchauffer ses doigts. Et là, je vous lis. Aussitôt, une flamme claire jaillit que la fillette protège de sa paume et pendant quelques secondes, elle a l'impression d'être devant un grand poêle. Mais le temps d'étendre ses pieds pour les réchauffer, la lumière s'éteint, tout redevient froid et sombre. La petite marchande sort une autre allumette qu'elle frotte contre le mur pour la faire brûler. À nouveau, la flamme magique surgit et cette fois, c'est comme si traversant le mur, elle lui permettait de voir ce qu'il y avait derrière, dans la grande salle où se prépare le festin. La table recouverte d'une nappe toute blanche, les assiettes de fine porcelaine et sur un plat, une oie rôtie bien dodue qui semble lui faire signe, qui déjà s'offre à son appétit. Hélas, l'allumette s'éteint. Il n'y a plus qu'un mur opaque et glacé. Vite, vite, la fillette prend une troisième allumette et se retrouve sous un grand arbre de Noël joliment décoré. Mais l'arbre sombre à son tour dans la nuit. Pas entièrement. Parce que il reste une bougie allumée. Une bougie qui monte vers le ciel si haut qu'elle devient étoile. Une des étoiles tombe en laissant une trace lumineuse et la petite fille se souvient de ce que disait sa bonne grand-mère. Quand une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers Dieu. En effet, nous apprenons que la grand-mère était la seule personne qui a aimé cette petite fille. Alors, pour retenir sa grand-mère, pour en garder la douce présence, la petite craque toutes les allumettes restant dans le paquet. Et dans une lumière plus claire que le jour, la grand-mère lui sourit, la prend dans ses bras, et toutes deux s'envolent très haut, loin d'un monde où règne la faim, la misère et la froidure des cœurs, tout près du bon Dieu. Et le lendemain matin, en effet, on la retrouve morte dans la neige.
Mais avec un sourire.
Avec un grand sourire.
Voilà.
Que vous ajoutez qu'en fait, personne ne voit qu'elle a ce sourire.
Non. Alors, bien sûr, on peut faire, et c'est ce qui reste en mémoire, une lecture, j'allais dire, sociologique ou même psychologique. On la plaint, cette pauvre petite fille abandonnée et donc qui n'a pas eu d'assistante sociale pour venir à sa rescousse, etc., et la nourrir, voilà. Mais du point de vue, en effet, de Sirius, ou du point de vue de l'éternel, de l'éternité, c'est une petite âme qui avait quand même, donc, qui était chue dans la matière, on va dire, et qui avait donc une allure de pauvresse. Mais pourtant, le conte dit, parce que moi, je me suis référée toujours aux textes originaux, et le conte dit que c'est une ravissante petite fille avec des cheveux blonds, et on sait bien que les cheveux blonds indiquent toujours un être de lumière. Et cette petite fille, elle est adoptée, si on peut dire, comme nous tous, j'allais dire, les âmes sont adoptées par des parents humains. Elle a des vêtements d'humains corporels, mais en fait, c'est cette petite âme qui va user de ce feu qu'elle a, de cette petite lumière, pour regagner, qu'elle le sache ou non, sa vraie patrie, son vrai royaume. Et alors c'est merveilleux de voir comment, par ce feu, cette lumière, elle traverse l'opacité d'un mur et elle se relie justement à cette dimension verticale et elle recouvre donc son royaume. Pourquoi en effet la fin de l'année? Parce que c'est aussi le passage, ça pourrait être Noël et il est fait mention de l'arbre de Noël. C'est la notion de passage toujours, donc d'initiation et la notion aussi de transformation. Et à la fin, Andersen, qui pour une fois, une rare fois, évoque le bon Dieu, c'est comme un peu les chaumières où les grands-parents disent le bon Dieu aux petits-enfants. Mais Andersen insiste bien en disant qu'elle est morte de froid, peut-être, mais elle a un grand sourire parce qu'elle a regagné son royaume éternel. Si, encore une fois, on a ce désir d'éternité, voire ce pressentiment d'éternité, ce qui manque sans doute, à mon sens, à beaucoup de nos contemporains.
Oui, et c'est vraiment l'axe de votre lecture, c'est-à-dire ce que j'appellerais une lecture herméneutique, c'est-à-dire vous ne voyez pas dans ces contes des histoires... Des histoires qui pourraient nous arriver, si je puis dire, dans leur,
non,
dans leur sens
littéral. Non, ce n'est pas la vie de tous les jours.
Voilà,
c'est la vie de l'extraordinaire des jours dont nous avons soif.
Et toujours, et c'est absolument. Et vous montrez toujours qu'en fait, pour vous, tout ce qui est du côté des ténèbres dans les contes, c'est en fait ce qui est du côté du monde, c'est-à-dire la misère, etc. Ça représente l'état de l'âme quand elle est en exil dans ce monde. Et finalement, quasiment tous les contes que vous analysez, vous avez cet angle de vue, l'âme descend dans le corps, elle doit traverser la nuit du monde. La nuit étant effectivement un moment très important à la fois pour raconter des contes et à l'intérieur des contes.
Oui, et le grand péril de l'âme, c'est d'oublier d'où elle vient. Donc, ce n'est pas de, le travail n'est pas de revenir sur le passé, de chercher papa, maman, les ancêtres, etc. Mais se relier à sa lignée céleste, se souvenir d'où elle a chu, en effet, d'où elle vient. Donc, le grand risque, c'est d'oublier. Mais là, c'est très platonicien, donc de rester éternel, enfin, pas éternellement, mais de s'engluer dans ce monde de confusion, d'approximation et de mort. Et l'autre risque aussi, qui revient au même, est de s'adapter à ce monde. Alors l'âme qui est aussi peau d'âne, par exemple, qui chemine à l'insu de tous, c'est une princesse, la belle princesse, qui chemine sous un vêtement grossier, qui est cette dépouille de l'âne, eh bien, elle est promise au prince, c'est évident. Donc ça n'a rien à voir avec le prince charmant dont rêve encore peut-être de jeunes demoiselles, parce que le prince n'est pas l'homme idéal au sens courant du terme, du moins dans ce monde, mais c'est vraiment les noces pour moi de l'âme et de l'esprit. Donc c'est sur un tout autre plan. De même, alors on a plein d'idées comme ça, où on répète et sans aller vérifier, mais entre autres dans les contes que j'ai décryptés, il n'y en a aucun qui ne termine par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Pas du tout. Ça se termine en effet dans la joie la plus grande et l'amour radieux, mais ils sont hors du temps. De revenir à ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, c'est une lecture temporelle historique, ça veut dire qu'ils retomberaient dans le temps historique, alors que là, ils sont affranchis, libérés de ce temps.
Mais ça, c'est peut-être la seule petite objection que j'aurais à faire sur ce livre, c'est que vous sélectionnez quand même les contes dans le sens de votre discours, qui est de dire, et il y en a beaucoup comme ça, qu'effectivement, c'est la nostalgie d'un au-delà, que le bonheur véritable est dans l'au-delà, mais il y a d'autres contes, comme Blanche-Neige et autres, où tout se termine bien sur Terre, on retrouve l'amour, le bonheur et ils eurent beaucoup d'enfants.
Non,
qu'il y a aussi des contes. Il y a aussi
mais
des
non,
contes
Frédéric,
où ils ont beaucoup d'enfants.
Non, mais dans Blanche-Neige justement, qui est à la fois qui est écrit par Grimm, par Grimm et puis aussi une autre version, mais par Grimm, il n'est absolument pas question à la fin qu'ils ont beaucoup d'enfants.
Bon, je dis ça pour Blanche-Neige,
mais oui,
peut-être.
Mais justement.
Mais on a quand même lu pas mal de contes où ça se termine par un bonheur terrestre. Ce n'est pas forcément le bonheur dans l'au-delà.
Je pense que ce sont des versions 19e, de même qu'il y a les versions édulcorées pour les enfants qui auraient peur que le loup engloutisse à tout jamais la grand-mère.
Moi, je me demande s'il n'y a pas deux types de contes. C'est-à-dire des contes qui effectivement correspondent tout à fait à l'explication que vous nous donnez, que c'est une vision très spirituelle de type platonicienne, avec une nostalgie de l'âme, d'un autre monde, et avec une vision de l'immortalité de l'esprit. Et puis, je pense qu'il y a aussi des contes qui sont plus terrestre, c'est-à-dire on recherche quand même le bonheur ici-bas, non ?
Oui, mais le bonheur ici-bas n'est pas à détester. Mais non, pas du tout. Mais la question, encore une fois, ils peuvent nous donner des pistes, non pas des recettes, mais ils peuvent nous indiquer des chemins à la fois sur le plan terrestre, en effet. Donc on peut dire qu'il y a aussi des contes édifiants. Et un Charles Perrault, qui sait très bien qu'il veut en dire beaucoup plus long, mais termine toujours par des petites moralités, même un peu simplettes. Pour le petit pousset, il faut toujours avoir un petit marmot chez soi. Ou pour la barbe bleue, méfiez-vous, ou alors le petit chaperon rouge, méfiez-vous des loups dangereux et des loups doucereux, etc. Donc ça, c'est édifiant sur le plan terrestre. Donc comment se conduire correctement avec justice, générosité ou piété par rapport à ses parents, ça oui. Mais sans oublier comment conduire son âme sur les chemins d'immortalité. Voilà, il y a toujours les deux plans. Donc ceux que j'ai choisis, bien sûr, mais encore une fois, ce sont parmi les plus connus et ceux qui continuent, je pense ou j'espère, à être donnés aux enfants ou aux adolescents. Donc parmi ces trois grands trésors récoltés par par les frères Grimm, par Perrault et par Andersen, avant tout, il s'agit bien de cette fameuse âme pérégrine, je dirais, qui traverse ce monde. Et il y a toujours le thème des tisserands qui revient, des vêtements et aussi des nourritures. De quoi je me nourris ? Ça, c'est très important. Et on le retrouve bien sûr aussi dans les évangiles. Quelle est ma nourriture ? Est-ce que je mange des nourritures empoisonnées, la fameuse pomme justement donnée à Blanche-Neige ? Ou est-ce que ce sont des nourritures subtiles ? Il y a toujours ces deux plans-là. Mais je pense aussi que très souvent de nos jours, on a édulcoré ou on a essayé de faire coïncider cette fin avec une fin temporelle. Et pour moi, ce n'est pas le vrai sujet.
Et ça, on a des traces concrètes de textes qui ont été transformés. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on a réécrit la fin de certains.
Bien sûr, non, mais même de nos jours.
Parce que les contes sont vivants, ils bougent tout le temps. Ils sont,
oui,
et mais donc, ils évoluent avec les mentalités.
Et moi, je me suis renseignée auprès d'amis qui ont des jeunes enfants et qui étaient en effet étonnés. Je dis, mais l'histoire de la grenouille, par exemple, la princesse qui embrasse la petite grenouille.
C'est pas du tout ça.
Non, c'est pas la princesse qui embrasse la petite grenouille qui se transforme en prince charmant. Non, c'est vraiment toute une histoire aussi de transformation, de transmutation de l'être. Et nous nous croyons sans doute en tant qu'humains arrivés au sommet de l'évolution ou de notre voyage en oubliant tous les autres états. Et la petite grenouille qui est, on le sait, donc un animal à métamorphose hein, depuis le tétard, c'est une petite grenouille qui, c'est très intéressant parce que c'est le conte qui ouvre vraiment le recueil des frères de Grimm, donc ce n'est pas rien. Et une petite grenouille qui rend un jour un service à la princesse, qui vivait dans son château élevé, assez lointain, où tout est en or. Et la petite grenouille rend service parce que cette jeune princesse qui joue avec une balle, eh bien, la laisse tomber dans une fontaine où vivait une petite grenouille tranquillement. Et bien sûr, j'allais dire, dans les contes, tous les êtres parlent. Mais en effet, c'est nous qui n'avons pas les oreilles, c'est nous qui n'avons pas le langage, mais tout parle, tout a conscience plus ou moins éveillée et tout vit. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est là que nous avons perdu beaucoup avec notre raison et notre arrogance d'humain aussi.
Tout le monde n'est pas Saint-François d'Assise non plus, hein, de comprendre la parole des animaux. Mais vous avez raison.
Ah, je pense qu'il ne s'agit pas d'être un saint pour comprendre. Non, il s'agit d'un peu d'attention.
De s'ouvrir.
Voilà. Je peux faire une toute petite parenthèse. Là-dessus, c'est intéressant de noter que un certain nombre de collecteurs de contes, comme les frères Grimm, sont typiquement représentatifs du mouvement romantique du 19e siècle, dans lequel on conçoit la nature comme vivante, l'homme faisant partie de la nature, et c'est déjà une lutte contre le mécanisme, contre le matérialisme qui est en train de dominer partout en Europe. Et l'intention de certains de ces auteurs, hein, les plus connus, c'est effectivement de maintenir à travers ces histoires cette idée fondamentale que l'homme fait partie d'un tout, qu'il est relié à la nature, aux animaux, et que tout le monde communique de manière mystérieuse, et qu'il y a une profondeur, effectivement, vous le rappeliez, dans le réel, qui échappe à la vue, à l'extériorité, finalement. C'est rappeler la profondeur intérieure à la fois des êtres et du monde.
Oui,
donc ça se situe dans le mouvement romantique, typiquement.
Oui, et qu'il y a en effet cette grande connivence du vivant et cette sympathie, mais qu'on trouve aussi chez Pythagore, qu'on trouve cette sympathie au sens fort entre tous les êtres vivants, animés ou dits inanimés. Hein, c'est le fameux vers de Nerval là, qui me revient, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Pour moi aussi, les pierres sont vivantes et les fleurs sont combien sensible, et on le sait même maintenant pour des scientifiques qui travaillent vraiment sur les végétaux, il y a vraiment des connivences entre eux et avec les autres.
Alors revenons à notre grenouille.
Notre petite grenouille, donc, alors elle parle et elle dit à la petite princesse, mais je peux t'aider, mais je vais plonger pour retrouver ta balle d'or, mais en échange, tu me donnes quelque chose, tu m'invites chez toi. Et la princesse, bien sûr, dit oui, et elle récupère la balle et vite, elle s'en va dans son château. La petite grenouille la suit. Bien sûr, elle n'a pas un pas très alerte et elle dit mais attends-moi. Et bien sûr, moi je prends toujours le point de vue de la petite grenouille, de l'animal. Et donc elle retourne à sa fontaine et pendant ce temps, la princesse croit être quitte alors qu'elle n'a pas rempli sa parole. Et puis un jour, elle est avec son père dans le château, en train de dîner, on imagine un dîner très, très sérieux, très officiel. Et on frappe à la porte, elle va ouvrir et elle revient terrorisée. Son père lui demande ce qui se passe et elle est obligée de dire que l'autre qui s'invite n'a pas apparence humaine et que c'est une grenouille qui vient réclamer son dû. Et le roi, alors qu'il représente une... vraiment une instance supérieure, là on pourrait dire une sorte de divinité qui préside justement aux futures noces, hein, peut-être, lui dit, lui fait la morale pour le coup en lui disant celui qui t'a rendu service, à celui qui t'a rendu service, tu dois aussi rendre.
Tu dois tenir ta parole.
Tenir voilà. ta parole. Exactement. La parole donnée.
Et donc elle fait venir, elle fait entrer avec appréhension la petite grenouille qui s'installe, elle la met au sol, près de sa chaise, et puis la petite grenouille a de plus en plus d'ambition, mais sur ce plan-là, il faut avoir beaucoup d'ambition, c'est-à-dire elle veut accéder à un état princier, au sens profond du terme, hein, à accéder à un état spirituel, ce n'est pas dit ainsi. Et la petite grenouille dit, mais non, moi je veux être sur ta petite chaise en or, donc la princesse accède, parce qu'il y a le roi toujours qui regarde, qui surveille, et puis, mais je veux manger dans ta petite assiette en or, donc la princesse est obligée. Et puis ensuite, bah, la grenouille, elle est bien repue, et elle dit, mais non, je veux aller dormir, et bien sûr, elle ne va pas aller dormir n'importe où, je veux que tu m'emmènes dans ta petite chambre, donc c'est de plus en plus...
Dans ton lit.
Et après, bien sûr, elle la met dans un coin de la chambre, la princesse, et ensuite, non, je veux aller dans ton petit lit de soie, etc. Et donc, on imagine, alors bien sûr, on peut toujours...
Et les psychanalystes se sont régalés avec ça,
évidemment.
C'est ce
que j'allais dire. Voilà, la jeune fille qui va avoir sa première expérience, etc. Bon, bien sûr, on imagine le régal des Freudiens, mais... En restant sur ce simple plan de l'histoire, la princesse, à ce moment-là, se voit obligée de dormir avec ce vilain batracien, et elle prend la fameuse petite grenouille et elle la jette contre le mur pour en finir une bonne fois pour toutes. Et c'est alors donc la petite grenouille, pauvre petite bête, explose, mais un très beau jeune homme apparaît. Un prince, alors sans nul doute ensorcelé, etc., comme dans beaucoup de récits. Alors on imagine quand même l'état d'esprit de la princesse, parce que qui a quand même voulu la mort du batracien. Mais tout ça se termine très bien donc avec les noces. On ne dit pas qu'ils ont beaucoup d'enfants. Pour faire très bref aussi, ça indique toute la... c'est aussi alchimique, mais ça indique toutes les transmutations de l'être et de la matière. Alors si un petit batracien peut prétendre et doit prétendre mener la vie de château, au sens spirituel du terme, pourquoi nous, les humains, nous sentons-nous contents de rester dans notre caverne, qu'est le monde, et pourquoi nous contentons-nous d'une condition mortelle, limitée, avec des joies, un bonheur et aussi de la souffrance ? C'est ça. Pouvons-nous prétendre à ce que certains appellent condition angélique, ou pouvons-nous prétendre à d'autres transformations dans un autre monde ? Pour moi, c'est vraiment ça aussi, cette histoire.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez aussi que c'est, à nouveau, si on fait une lecture symbolique, c'est l'âme qui refuse de s'unir au corps.
C'est ce que je ressens.
Puisqu'elle est pure et belle et princière, mais que le corps, en même temps, pour que l'âme puisse se compléter, il faut que le corps... viennent dans son lit, si je puis dire.
Tout à fait.
Et pareil pour le corps. Le corps ne peut accéder à la station princière que si elle s'unit avec son âme, avec une âme et un esprit. Voilà. Donc, c'est vrai que l'autre fil que vous tenez tout au long de... évidemment, Frédéric a raison, d'une certaine façon, c'est votre lecture.
Mais bien sûr, et je n'ai pas la prétention d'être
dogmatique. Les contes sont faits pour ça, c'est d'avoir sa propre lecture. Mais c'est vraiment le fil, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'âme et le corps, comment cette dialectique se met en place et comment traverser le monde avec cette double dimension. Et le paradoxe que souligne Frédéric, c'est qu'au fond, on en a fait quand même une interprétation. Très souvent, maintenant, on en fait une interprétation à la Walt Disney, c'est-à-dire vraiment terrestre. Et c'est quand même extraordinaire que des contes qui avaient une vocation d'ouvrir, de détacher l'âme, je dirais, de ces illusions terrestres, finissent par créer ce que j'appelle, dans ma famille, j'appelle ça le syndrome de Cendrillon. C'est-à-dire que c'est devenu, c'est un véritable conte de fées. Quand on parle de Lady Di, par exemple, le conte de fées de Lady Di, on sait quand même qu'il s'est très mal terminé. Donc, quand on le retranspose dans le monde tel qu'il est, si on veut vraiment vivre comme dans les contes, c'est une catastrophe, parce qu'ils sont dans une illusion complète. A-t-on jamais vu sur cette terre un amour durer toujours ? A-t-on jamais vu la lumière ou le bien l'emporter véritablement dans ce monde ? C'est ça, en fait, je crois. C'est ça, il y a un malentendu.
Vous êtes sur France Culture et nous poursuivons notre discussion avec Jacqueline Kellen à l'occasion de la sortie de son livre « Une robe de la couleur du temps », Lélie Anvar.
Oui, donc nous parlions du bonheur terrestre comme une illusion, bien que beaucoup de gens ne lisent pas les contes comme ça. Et vous avez un chapitre, le chapitre 5, intitulé « Le palais des illusions », qui est une analyse de Barbe Bleue dans ce sens. Personnellement, je n'avais jamais lu une analyse de Barbe Bleue dans ce sens, et je dois dire que ce conte m'a toujours résisté. J'ai toujours rien compris à ce conte, et ma foi, votre explication m'a pas mal convaincue de la cohérence de ce conte. Alors, expliquez-nous.
Oui, la Barbe Bleue. Alors déjà, pour montrer que nous pouvons à chaque fois, chacun de nous, vraiment se couler dans tous ces récits, c'est qu'il y a, il n'y a jamais de prénom, ou très rarement, ou alors ce sont des sobriquets, comme le petit chaperon rouge, la Barbe Bleue. On parle, on dit la petite sirène, le petit pousset.
C'est tous des petits.
Oui, parce qu'ils ont à grandir comme nous, hein, comme la petite grenouille aussi qui veut évoluer et s'éveiller et grandir. Et donc, la Barbe Bleue, en fait, c'est un personnage très inquiétant. Et le bleu, là, ce n'est pas le bleu du ciel, ce n'est pas la couleur, la robe de la couleur du temps, ce bleu ciel profond. C'est un bleu noir, bleu corbeau, comme lorsqu'on dit avoir une peur bleue. Bon. Donc, c'est un personnage qui, a priori, n'est vraiment pas sympathique, c'est dit dans le récit. On a peur de lui. Apparemment, il a eu déjà plusieurs épouses, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, donc voilà. Et un jour, eh bien, la Barbe Bleue va chez une de ses voisines, qui avait deux filles très belles, très sages, vertueuses, etc. Et il va pour prendre épouse. Il n'oblige personne. Il ne dit pas « je jette mon dévolu sur l'une et l'autre ». Et les deux filles sont déjà la réputation de cet homme, plus son aspect, n'ont vraiment pas envie de l'épouser. Mais il les convie à la campagne. Il dit « mais venez voir mes appartements, mes biens, mes possessions, etc. » Et les deux filles et leur mère et des amis viennent et à ce moment-là découvrent tout l'aspect, les possessions matérielles, l'apparence, la séduction, les séductions et les plaisirs de l'existence. Et finalement, au bout du compte, eh bien, la cadette trouve que cette Barbe Bleue n'est pas si épouvantable. Et elle accepte le mariage. Donc encore une fois, c'est elle qui décide. Dans presque tous les contes aussi que j'ai pu un peu déchiffrer, il y a toujours cet instant rappel toujours au discernement. Attention, ne vous laissez pas prendre par les apparences, le on-dit, etc. Le discernement qui est essentiel dans toute notre existence. Et donc, la jeune femme, eh bien, elle commence à vivre sa vie d'épouse avec beaucoup de richesses, beaucoup de plaisir, croit-elle. Mais très vite, la Barbe Bleue dit « j'ai une affaire à régler, je m'en vais ». Il part avec son carrosse tout doré, il s'en va. Et auparavant, il avait dit à sa jeune épouse, et ça tout le monde s'en souvient, il avait dit je te laisse tout, tu as toutes les clés des appartements, des meubles aussi qui contiennent de la vaisselle précieuse, je te donne toutes les clés, lui donne tout le trousseau de clés. Et y compris, il y a une fameuse petite clé qu'il lui donne, il ne la garde pas pour lui, c'est ça qui est intéressant, il lui donne cette petite clé en lui disant, tu utilises tout ce que tu veux sauf cette petite clé qui ouvre la porte d'un petit cabinet. Et donc une petite pièce. Et là, c'est strictement interdit d'aller y voir. Bon, et là-dessus, il s'en va. Alors, presque aussitôt après, alors que ses amis regardent les beautés, les richesses dans lesquelles elle vit, la jeune femme se précipite justement pour voir ce qu'il y a. Alors, on peut dire toujours l'attrait de l'interdit. Et là, bien sûr, en ouvrant, enfin, c'est assez la pénombre d'abord, et ensuite elle voit des flaques de sang. Enfin, c'est ça aussi, petite fille, j'avais été très marquée parce qu'on dit bien, il y a des caillots de sang sur le sol. Donc là,
oui,
c'est la
terrible
révélation brutale de ce que nous nous ingénions à ne pas voir ou à ne pas penser, à savoir, il y a la mort au bout. Qu'est-ce que je fais face à la mort? C'est dans tous les mythes, dans tous les récits, c'est la révélation, moi aussi je vais mourir. Alors est-ce que tout va périr? Et elle s'aperçoit en effet qu'il y a la mort. Et bien sûr, cette pièce n'est pas en haut éclairée, etc. C'est en bas d'un petit escalier. Bon. Et elle est effarée à ce moment-là, mais elle voit bien sûr au mur des femmes pendues, égorgées, donc les fameuses épouses certainement de la Barbe Bleue. mais elle n'échappera pas à son sort. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle a épousé cet homme terrible et qui, pour moi, représente le temps avec un T majuscule, le temps qui ne fait pas de cadeaux, le temps qui vous laisse à peine de temps pour s'éveiller et en même temps qui vous donne toutes les clés. Moi, j'ai toutes les clés en main. Enfin, comme chacun de nous, on a toutes les clés. Et les clés de la conscience, la petite clé qui peut-être ouvre des perspectives un peu sombres, mais peut-être peut nous réveiller pour accéder à des sphères plus hautes. La Barbe Bleue revient très vite. Étonnamment, il a réglé son affaire, bien sûr. Et il demande à sa femme de lui rendre les clés. Dans sa terreur, en découvrant les femmes pendues, la jeune épouse avait laissé tomber la fameuse petite clé sur le sol et cette clé était tachée de sang. Elle avait beau la frotter, la nettoyer avec du sable, du savon, etc., rien ne partait. Et bien sûr, elle rend toutes les clés à son époux sans la fameuse petite clé. Elle essaye de gagner du temps et bien sûr, elle n'y arrivera pas. Et un jour, elle est obligée de rendre cette petite clé. Et bien sûr, Barbe Bleue, qui savait tout, lui dit « Mais vous êtes allé voir ce qui se passait. » Et il dit, alors là, il y a des accents très 17e siècle, très bossués. « Il faut mourir, madame, vous allez mourir, etc. » Et elle, à ce moment-là, comme chacun de nous, la créature, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 80, « Non, non, le temps n'est pas venu. Non, non, laissez-moi du temps. » Et elle est terrifiée et lui commence à sortir son grand coutelas elle lui demande à ce moment-là un peu de temps pour prier. C'est toujours dans les moments difficiles qu'on se souvient peut-être ou qu'on espère qu'il y a des instances supérieures qui vont venir nous aider hein, ou qu'on se plonge dans la Bible et autres textes sacrés. Mais c'est alors que revient le personnage qu'on avait un peu oublié, qui est sa sœur aînée, qui elle n'avait pas consenti à cette noce, ces noces bizarres. Et la sœur qui s'appelle Anne, donc, monte à la tour. C'est très intéressant, ce serait bachelardien, mais à la fois la jeune femme qui descend vers le bas où elle trouve la mort, le massacre, etc. Et Anne qui monte l'escalier de la plus haute tour. Et elle dit, la jeune épouse, elle dit « Anne, ne vois-tu rien venir ?» Parce que apparemment, les frères dont on n'avait pas entendu parler, des frères viendraient ce jour-là, ils viendraient lui rendre visite. Quels sont ces frères ? D'évidence non charnelle ou non familiaux dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est la fameuse phrase que dont tout le monde se souvient. Non, je ne vois rien, il n'y a que l'herbe qui verdoie et le soleil qui poudroie. Et oui, vrai. Qui poudroie comme la poudre d'or. Et au bout de 3 ou 4 demandes réitérées, il y a toujours l'herbe qui verdoie, etc. Alors nous, on peut dire, c'est sinistre, il n'y a rien du tout. Mais si on creuse un peu l'herbe qui verdoie, mais c'est la reverdie, justement, hein, dont parlaient les troubadours. C'est le renouvellement. C'est que rien n'est mort, justement. C'est le printemps de l'être. Et le soleil qui poudroie, déjà cette poudre d'or, ça laisse augurer aussi d'une lumière qui n'est pas une lumière qui décline. Et c'est alors qu'à la troisième demande, alors qu'en bas, il y a le méchant Barbe Bleue avec son grand coutelas, et la pauvre femme éplorée qui va mourir, Anne, du haut de la tour, dit « Si, je vois les frères qui arrivent, les cavaliers, les frères arrivent. » Et ils arrivent en effet très vite, ils s'aperçoivent de ce qui se passe et ils tuent Barbe Bleue juste à temps, in extremis. Et l'histoire continue en disant qu'après, l'épouse, la veuve de Barbe Bleue, épousera un jeune homme fort honnête, je ne sais pas s'il était barbu, mais fort honnête.
Heureux et ils ont beaucoup d'enfants.
Non, il n'en est pas question.
Il n'en est pas mais question.
Ce qui est intéressant...
Enfin, elle est heureuse quand même.
Oui, oui, mais parce que grâce à sa sœur aînée, elle s'est reliée justement à la partie la plus haute, la dimension la plus haute de son être. Et alors, quels sont ses frères ? C'est ça, moi je me dis, ce sont les alliés. Nous avons toujours des amis
les
invisibles, des alliés célestes.
Les anges.
Voilà. Alors, ce ne sont pas les anges pour ces
conduits
païens. Il
faut aller dans le donjon de l'âme pour pouvoir les rencontrer.
Tout à fait. Donc, je trouve que c'est un conte extrêmement profond.
Oui, et c'est de dire que c'est un... Finalement, votre livre s'intitule « Une robe de la couleur du temps ». C'est évidemment une allusion directe à Peau d'âne, qui est le conte qui conclut votre livre. Et en fait, ça nous fait comprendre, peut-être encore plus que la question de l'âme et du corps, etc., notre situation temporelle et comment le temps, peut être utilisé. Et c'est pour ça que c'est « il était une fois », et qu'il y a un début et qu'il y a une fin, et que ça se passe dans une histoire avec un déroulement, mais que finalement, le temps est vaincu. Finalement, c'est la chose qui est véritablement vaincue dans les contes, quels qu'ils soient, que ce soit ceux que vous avez choisis délibérément pour ce livre ou ceux que Frédéric évoquait, finalement, c'est toujours une affaire de conquête sur le temps.
Oui.
Et donc sur notre condition humaine.
Oui, mais alors le temps nous est compté, ce que rappelle en effet par exemple Barbe Bleue de Charles Perrault, mais ça veut dire aussi que nous avons cette merveille à notre disposition et que nous avons aussi ce temps nous est donné pour accomplir sans doute ce qu'il nous est possible. Moi ce que je retiens aussi, c'est je me dis pourquoi ces contes sont merveilleux et ne nous parle pas d'irréel, comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas de la fiction, et ce n'est pas la vie quotidienne non plus. Il nous parle de choses merveilleuses, il nous parle de sagesse, parce que nous l'avons oublié, la sagesse n'est pas austère, la spiritualité n'est pas sinistre, la sagesse est prodigieuse. Justement, c'est ça qu'ils arrivent à conjuguer, cet émerveillement. Nous avons tous besoin de rêver, de nous enchanter, et en même temps de savourer quelque chose qui nous montre notre véritable dimension d'être humain et qui n'est pas, en effet, de l'ordre du périssable et du faible.
Et moi, je trouve aussi que « il était une fois », c'est aussi une manière de situer les contes hors du temps. Puisque ça veut dire, si c'était une fois, ça peut être, peu importe quand ça a eu lieu, au fond. C'est au-delà de telle époque, de telle autre. Ça veut dire, c'est universel, c'est intemporel. Je le lis comme ça, moi. Il était une fois, j'aime bien cette expression.
Oui.
Parce qu'on se dit, ça peut être demain, aujourd'hui, hier. Et ça nous fait sortir de la temporalité.
Mais bien sûr.
Pour montrer le caractère le plus universel de l'histoire.
Oui, ben c'est le haut commencement, en effet, de la jeunesse. Hein, dans le principe... Et c'est, alors je vais encore citer Bachelard, que j'aime beaucoup, lorsqu'il parle de la mémoire de l'immémorial. C'est ça, dans ce temps-là. Alors il y a d'autres contes qui disent du temps où les bêtes parlaient, du temps où tous les vœux étaient exaucés, du temps où tout le monde était aimable. C'est en effet cette référence, encore une fois, les chrétiens ou d'autres diront le paradis, mais à cet espace en nous indestructible, simplement recouvert de la poussière du temps, certainement, mais ce royaume qui ne demande qu'à réémerger et étinceler.
Et d'ailleurs, dans certaines langues, dont le persan, l'espagnol et d'autres, dont parle Paul Ricoeur dans la métaphore vive, en fait, on commence les contes non pas en disant « il était une fois », mais en disant « cela était et cela n'était pas ». Ça veut bien dire ce que vous dites, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose qui est là et quelque chose qui est ailleurs. Donc le conte, en fait, c'est ce qui se dépasse soi-même tout le temps, d'une certaine façon. Donc c'est toujours ici et ailleurs, c'est toujours dans le temps et hors du temps. Ouais. Et c'est peut-être ça la magie qui fait qu'on veut y croire. Alors justement, je crois que Frédéric, vous êtes bien placé pour nous dire comment vous percevez la temporalité du conte, puisque vous venez de publier, vous aussi, un conte qui s'intitule « Cœur de cristal » aux éditions Robert Laffont. C'est un conte initiatique. C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un cœur qui ne demande qu'à battre, qui ne demande qu'à vibrer, et c'est l'histoire d'un petit garçon, en fait, qui va apprendre à ouvrir son cœur à cet amour, à cette résonance, en fait, intérieure dont on a parlé pendant cette émission, et en réalité, il va apprendre à aller vers lui-même. Ça s'appelle « Cœur de cristal ». Et vous voulez en dire un mot peut-être ?
Oui, c'est-à-dire que moi je suis évidemment très touché par ce que dit Jacqueline Kellen, et malgré le fait que je trouve qu'effectivement vous faites un tri dans les contes, je suis fondamentalement d'accord avec vous. C'est-à-dire, je pense que le conte est essentiellement là pour nous parler de la mort et nous aider à peut-être dépasser cette peur de la mort. Et moi j'ai écrit ce conte par rapport à ça aussi, parce que je me rends compte que les enfants, c'est la grande question des enfants. ils sont confrontés très très tôt au deuil, notamment avec la mort souvent des animaux. On a tous perdu un poisson rouge, un chien, un chat, et c'est bouleversant. Enfant, on est traumatisé. Et du coup, je parle d'une histoire. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui a perdu son chien et elle est désespérée. Elle veut fermer son cœur. Elle veut plus jamais aimer, plus jamais s'attacher. Et elle va voir son grand-père, le roi du royaume. Et le roi lui dit, ben, effectivement, tu peux faire ça, tu peux fermer ton cœur, mais il y a une autre solution, c'est de l'ouvrir encore plus. Et lorsqu'on perd un être cher, ou on se ferme à jamais et on ne peut plus vraiment aimer, on devient dur, on a peur de la vie, ou on s'ouvre encore plus parce que la souffrance a créé un sillon qui élargit notre cœur et qui nous permet d'avoir encore plus d'amour de la vie, d'acceptation de la vie avec ses bons moments, avec les moments difficiles. Et il lui raconte sa propre histoire. Et l'histoire de ce roi, c'est qu'il y a eu un sortilège qui fait que son cœur était cœur de cristal, il avait une gaine de cristal qui empêchait son cœur de vibrer et d'aimer. Et tout pendant l'adolescence, et il ne peut pas aimer, et il va chercher s'il y a dans le royaume une personne qui ne peut pas l'aider à briser cette gaine de cristal et à découvrir l'amour. Et donc, on va découvrir que derrière tout ça, il y a toute une histoire de deuil aussi qu'il fallait surmonter. Donc, je vous rejoins complètement. Et je pense que c'est très important de parler de la mort aux enfants. Et c'est pour ça que j'ai essentiellement voulu faire ce conte.
Oui, en parler sans édulcorer, en réalité.
Sans édulcorer, en affrontant ce moment important de la vie qu'est la mort.
Oui, c'est joli.
Voilà. Mais ce n'est pas que pour les enfants. C'est un conte pour les petits et les grands, comme tous les contes.
De 9 à 99 ans. Merci beaucoup, Jacqueline Galen. C'est toujours un bonheur de vous recevoir
aussi,
aux Racines du Ciel.
Aussi.
Je rappelle votre très beau livre, Une robe de la couleur du temps, le sens spirituel des contes de fées chez Albin Michel. Merci. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous parlerons avec Idriss DeVos de la voix de l'amour soufi. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très beau dimanche à tous.